Il semblerait que la vague anticolonialiste qui a commencé au Mali et qui a fini par l'expulsion des forces interventionnistes est désormais répandue au Sahel et c'est au Burkina que ce scénario fait des émules. Le mouvement M30 Naba Wopko, auteur de la manifestation dispersée par la police contre l'ambassade de France au Burkina Faso, a dénoncé vendredi à Ouagadougou lors d'une conférence de presse les accords militaires signés par les autorités burkinabées avec la France depuis 1961. La coordinatrice du mouvement, Yeli Monikam, a fustigé le caractère lointain des accords avec la France signés le 24 avril 1961, soulignant que ces accords maintenaient le Burkina Faso sous tutelle comme une colonie. Elle a soutenu que son mouvement s'est donné pour objectif de lutter à partir de cette année pour la rupture de ces accords car, dit-elle, la France doit partir. Le vendredi 12 août courant, des centaines de personnes répondant à l'appel du mouvement avaient tenté d'organiser une manifestation interdite par les autorités municipales. La manifestation avait été réprimée par la police nationale, avec au bilan des blessés et des interpellations dont Herman, Timvaoga, Zungarna, selon un bilan dressé par les responsables du mouvement. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso a été le premier pays à avoir bloqué le convoi militaire de la force Barkhane, les villageois de Kaya ayant fait preuve de résistance, de souverainisme et d'un courage exemplaire face aux forces françaises qui n'ont pas hésité de tirer vers le peuple afin de faire passer leur convoi. D'un autre côté, et en même temps de la volonté du peuple burkinabé de rompre les accords militaires signés avec la France, des citoyens lancent une pétition citoyenne pour la réconciliation et la paix. Voyons une partie du texte de cette pétition. Pays de tradition, paisible et de forts liens séculiers entre les communautés, notre nation a connu depuis son indépendance un climat de paix, de vivre ensemble et de tolérance reconnue à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous saisissons l'opportunité ici pour rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à toutes les personnes éprouvées par cette crise abjecte. Appelons tous les Burkinabés et la diaspora à s'approprier la pétition citoyenne comme un outil social de manifestation de notre volonté commune à un vivre ensemble et à une union sacrée pour la survie de notre nation. Alors que depuis le coup d'État au Burkina, l'AXUS OTAN tente de faire glisser ses politiques et ses lignes au Burkina et en première ligne d'affaiblir l'armée, celle-ci a prouvé qu'elle reste souveraine et indépendante, malgré toutes les tentatives de déstabilisation et continue s'assurer de la sécurité du peuple. C'est dans ce cadre que l'armée burkinabé a affirmé vendredi avoir neutralisé 114 terroristes en diverses opérations antiterroristes menées du 15 juillet au 15 août et qui ont coûté la vie à 14 soldats, 14 combattants volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs de l'armée et 5 civils. Malgré les accusations des ONG occidentaux quant à des exactions et à des crimes de guerre contre cette armée souverainiste, l'armée et les forces de défense populaire avancent ensemble dans le cadre de la sécurité et de la stabilité du pays. Il reste que le peuple résiste et persiste et qu'il suive le chemin de la résistance malienne. Le Mali a non seulement expulsé Barkhane, mais a déclaré haut et fort que tout acteur déstabilisateur de n'importe quelle origine sera attaqué et ciblé par ses forces. Pour le Burkina Faso, le chemin est long, mais tout à fait concevable.
Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, s'est rendu le 17 août à Moscou pour participer à la conférence internationale sur la sécurité au cours de laquelle il a eu à faire un briefing sur la situation sécuritaire en RDC à l'adresse des pays amis. Il a en même temps donc saisi l'occasion pour solliciter au nom du gouvernement de la RDC l'accompagnement multiforme de la Russie dans la traque des groupes armés actifs à l'est du pays. Mais déjà les États-Unis sont contre l'initiative du président et du gouvernement congolais. Selon quelques Américains, il faut des négociations avec les pays voisins afin de partager donc les richesses de l'est du Congo qui sont à la base de l'instabilité de la région du Grand Lac. Pour reprendre fidèlement ses propres mots, l'objectif immédiat du ministère congolais de la Défense est que la RDC doit se mobiliser et obtenir les moyens nécessaires à fournir aux forces armées de la RDC en faveur des opérations contre les groupes armés au Nord Kivu, Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. L'appui multiforme de la Russie et de l'ensemble des pays participants à cette conférence est vivement souhaité, a-t-il déclaré. Dans le contexte géopolitique actuel de la guerre de l'Ukraine, où le monde se redivise de nouveau en deux blocs, donc pro-occidental et pro-sino-russe, cette nouvelle position gouvernementale de la RDC est riche en signification. Tout semble faire croire qu'elle est étroitement liée à la non-condamnation claire du Rwanda par Anthony Blinken, qui a préféré renvoyer dos à dos la RDC et le Rwanda tout en maintenant l'aide militaire américaine au Rwanda. Ce qui a fait comprendre à Kinshasa qu'il n'a plus grand-chose à attendre de l'oncle Sam pour pouvoir stopper le chaos sécuritaire dans sa partie orientale. Ce revirement à 180 degrés d'un gouvernement qui a voté en faveur de sanctions de l'OTAN contre la Russie ne laissera personne indifférent dans l'actuel croisement de fer entre Washington et Moscou. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin du mensonge international sur la guerre de l'Est congolais et vers la nécessaire recomposition des alliances. La seule et grande inconnue dans ce nouveau paysage politique reste la réaction de ces puissances qui, depuis février 1885, ont toujours considéré le Congo comme leur précaré imprenable en raison de sa position géostratégique et de ses nombreuses ressources minières pour le fonctionnement de leur industrie de pointe. Cela dit, depuis un certain temps, le peuple congolais a également tranché la question. Pas de forces étrangères occidentales sur son territoire. Les dernières manifestations contre la présence néfaste de la MONUSCO, l'hostilité contre la politique de Washington se répand de plus en plus, et lors des manifestations, les drapeaux russes sont également de plus en plus visibles. Pour le peuple congolais, la situation est claire. Ils veulent que leur pays suive la politique anti-néocolonialiste du Mali, de la Centrafrique ou encore de l'Éthiopie. En tout cas, les Congolais ont déjà emprunté cette voie.
Le président nigérian Mahamadou Buhari s'est rendu à Maïgouri pour une visite de terrain jeudi 18 août, au cours de laquelle il a notamment réitéré la volonté des autorités de renvoyer les personnes déplacées sur leurs terres d'origine. Ce processus périlleux a début à la fin de l'année dernière avec la fermeture des camps de déplacés de la ville de Maïdougouri. Mais leur rapatriement dans des villes et des villages désertés après de longues années d'absence présente de nombreux défis. Comment peut-on analyser cette décision du président nigérian? Plus d'analyse avec Luc Michel, géopoliticien à ce sujet.
Écoutez, Buhari est comme beaucoup de présidents africains pour le moment. Il fait le grand écart. Au départ, c'est un régime pro-américain. Buhari, d'ailleurs, a été président une première fois dans les années 1980, après un coup d'État organisé par la CIA. Il tente donc de concilier des options panafricaines et en même temps l'alignement avec son alliance américaine. Il est confronté à une guerre contre Boko Haram, dont le Nigeria étant le centre de la guerre de Boko Haram. En 2016, il a fait une erreur stratégique. L'armée du général, l'époque Idriss Déby Itno, était en train de défaire Boko Haram et le Nigeria a refusé que l'armée tchadienne exerce un droit de poursuite sur le territoire nigérien qui aurait mis un terme à la menace de Boko Haram. Voilà donc, il faut savoir que Boko Haram, contrairement à ce qu'ont prétendu les régimes africains au début, ce n'est pas une petite secte de drogués, mais c'est un vaste mouvement qui a des racines géopolitiques et sociales, principalement au Nigeria, dans l'État de Borno. L'État de Borno, c'est un petit État misérable de la Fédération nigériane, mais c'est la dernière survivance historique du grand sultanat ou royaume de Kanaborno qui s'étendait de Borno donc jusqu'au Nigeria, sur toutes les rives du lac Tchad, et qui a été détruit par les armées françaises en 1893. C'était l'État dominant, évidemment. Les populations dominantes qui sont devenues dominées musulmanes n'ont pas digéré cette défaite historique. C'est un phénomène un peu semblable avec ce qui s'est passé avec la France, avec les Touareg au Mali. Voilà donc évidemment, Boko Haram a des bases arrières, un soutien de la population à une base sociale puissante dans l'État de Borno, Et on a découvert très tard d'ailleurs cette racine géopolitique de Boko Haram lorsqu'une thèse historique est sortie, curieusement ou pas d'ailleurs, je suis ironique là-dedans, elle n'a pas été sortie en français parce qu'elle dérangeait l'université française, comme c'est souvent le cas. Bouhari doit donc faire face seul, évidemment, à la lutte contre Boko Haram, d'autant plus que le principal adversaire de Boko Haram, c'était l'armée tchadienne de Idriss Déby. Donc, cette fois-ci, n'existe plus. Le Tchad, c'est un régime actuellement qui est en pleine chute, qui a des problèmes internes, qui doit faire face à des groupes armés et qui a donc d'autres préoccupations que de combattre Boko Haram sur les rives.
Burkina, les accords militaires signés avec la France sont dénoncés. Le mouvement M30 Naaba Wobougou, auteur de la manifestation dispersée par la police contre l'ambassade de France au Burkina, a dénoncé vendredi à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse, les accords militaires signés par les autorités burkinabées avec la France depuis 1961. La coordinatrice de mouvement, Yeli Monique Kam, par ailleurs candidate à la présidentielle de 2020, a fustigé le caractère lointain des accords avec la France, signés le 24 avril 1961, soulignant que ces accords maintenaient le Burkina Faso sous tutelle comme une colonie. Elle a soutenu que son mouvement s'est donné pour objectif de lutter à partir de cette année pour la rupture de ces accords, car, dit-elle, la France doit partir. Le vendredi 12 août courant, des centaines de personnes répondant à l'appel de mouvement avaient tenté d'organiser une manifestation interdite par les autorités municipales. La manifestation avait été réprimée par la police nationale avec un bilan des blessés et des interpellations, dont Herman Timbawaga Zugarna, selon un bilan dressé par les responsables de mouvement. Zugarna a été entendu puis libéré le 16 août courant, après avoir été entendu par la justice, selon le mouvement. La Côte d'Ivoire importe 86% de ses besoins de consommation de poissons. Pour réduire à zéro cette proportion, le pays poursuit le déploiement de son plan national de développement aquacole avec le lancement d'un programme visant à favoriser l'autosuffisance en poissons et l'export à la fin de la décennie. Permettre aux Ivoiriens de consommer à 100% de poissons locaux d'ici 2030 et d'exporter le surplus, tel est l'objectif de ce programme. À cette fin, le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de lancer le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, lié à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture qui vise une production de 150 000 tonnes de poissons en 2026. Ce nouveau programme, selon le ministère, devrait constituer la fondation d'une industrie aquacole nationale performante et compétitive dans cette économie phare d'Afrique de l'Ouest qui importe encore 86% de ses besoins de consommation en poissons en 2021 selon les données officielles. La bonne mise en œuvre du programme permettra d'amorcer le développement futur de PME et grandes entreprises capables non seulement de satisfaire la demande nationale, mais également d'envisager l'export pour lequel les besoins mondiaux sont de plus en plus croissants. Il permettra aussi de stimuler l'investissement dans le secteur aquacole, a déclaré Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, selon l'agence de presse ivoirienne API. Au Cameroun, au cours de la campagne cacaoyère 2021-2022, qui s'est théoriquement étendue de 1er août 2021 au 15 juillet 2022, le Cameroun a produit et commercialisé 295 163 tonnes de fèves au total. Selon les données compilées par l'Office national du cacao et du café, l'information a été révélée le 18 août 2022 à Yakadouma, bassin de production de la région de l'Est du pays, qui a abrité la cérémonie de lancement de la campagne 2022-2023. en comparaison avec les 282 471 tonnes de fèves produites et commercialisées lors de la saison 2020-2021, la dernière campagne révèle une large augmentation de la production nationale commercialisée de 0,91%, ce qui correspond à 2692 tonnes en valeur absolue. Avec cette performance, le Cameroun réalise son meilleur tonnage des 7 dernières campagnes et affiche surtout une augmentation progressive de sa production au cours des 3 dernières saisons. C'est à peu près pour cette même raison qu'on entend de plus en plus parler de la crise anglophone. Meilleur prétexte pour le redéploiement des forces américaines en Afrique de l'Est. Une attaque de terroristes Chebab dans un hôtel de Mogadiscio a fait au moins 8 morts ce vendredi 20 août. Des échanges de coups de feu nourris ont eu lieu à l'hôtel Hayat dans la capitale somalienne entre les forces de sécurité et les dits djihadistes. Beaucoup de personnes seraient encore prises au piège. L'hôtel Hayat à Mogadiscio, généralement fréquenté par des représentants du gouvernement, a été attaqué par 2 voitures piégées. Selon un policier, l'une des voitures a heurté une barrière près de l'hôtel. L'autre a cassé la porte de l'établissement. Un site internet pro-Chebab rapporte que les djihadistes auraient alors pénétré l'enceinte et ouvert le feu au hasard à l'intérieur de l'hôtel. Des explosions ont aussi été entendu, une première causée par un kamikaze, à en croire le porte-parole de la police somalienne, puis une seconde qui aurait fait des victimes parmi les sauveteurs, les forces de sécurité et les civils qui se précipitaient vers l'hôtel après la première explosion. La politique américaine consiste à multiplier par réseaux interposés des attaques terroristes à travers tout le Somalie pour pouvoir y renforcer sa présence.